Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h du matin à Paris et N'Djamena, une heure de moins en temps universel.
Diane Berger.
C'est le dernier pays du Sahel à abriter des forces françaises. Le Tchad annonce mettre fin à ses accords de coopération de défense avec Paris. Ce n'est pas une rupture, selon le ministre des Affaires étrangères tchadien, mais le changement marque tout de même un tournant historique. Au Liban, Beyrouth accuse Israël de plusieurs violations du cessez-le-feu. Plus au nord, en Syrie, les combats font rage autour d'Alep entre les djihadistes et l'armée de Bachar el-Assad. Et puis en Australie, TikTok, Instagram, Facebook, c'est bientôt fini pour les moins de 16 ans. Tout s'est joué avec un communiqué envoyé quelques heures après le départ du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense. C'est un accord signé avec la France, révisé en 2019. C'est N'Djamena donc qui l'a annoncé hier soir. Les détails avec Magali Lagrange.
Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, peut-on lire dans le communiqué. Un tournant qualifié d'historique, 66 ans après la proclamation de la République. Le Tchad met donc fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris. Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs, tempère le ministre tchadien des Affaires étrangères. Le Tchad veut évoluer, mais la France reste un partenaire essentiel, poursuit Abderrahmane Koulamala. Le communiqué précise d'ailleurs que N'Djamena reste ouverte au dialogue pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis, seront respectées, affirme le Tchad, sans plus de précision pour le moment sur les implications de la fin de cet accord. Environ un millier de soldats français sont actuellement stationnés dans le pays. Au début du mois, l'envoyé personnel du président français pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, affirmait sur notre antenne que ni le Tchad, ni la Côte d'Ivoire, ni le Gabon ne souhaitaient le départ des Français.
Magali Lagrange. Dans l'actualité africaine également, Emmanuel Macron utilise le terme de massacre pour qualifier la mort à Tiaroy de plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais abattus il y a 80 ans par les forces coloniales françaises. C'est le président du Sénégal qui l'annonce, un choix de terme rare de la part de la France à quelques jours des commémorations. Pour Bassirou Diomaye Faye, c'est un pas important vers la vérité. 48 heures de trêve au Liban et déjà des premiers accrochages. Beyrouth accuse l'État hébreu de plusieurs violations de l'accord de cessez-le-feu. L'armée israélienne a en effet tiré sur des positions de son ennemi, le Hezbollah, le mouvement islamiste allié du Hamas et de Téhéran. En Syrie, les djihadistes vont-ils prendre le contrôle de la ville d'Alep? Depuis mercredi, les affrontements redoublent d'intensité entre l'armée du régime de Bachar el-Assad et les groupes rebelles qui tentent d'élargir leur territoire. Le bilan est de plus de 200 morts en l'espace de deux jours, Théo Renaudon. Il s'agit des combats les plus violents dans cette zone depuis 4 ans.
Alep, 2 millions d'habitants voient la ligne de front se rapprocher. Plus que quelques kilomètres maintenant entre son centre-ville et les rebelles du HTS. Un groupe salafiste estimé à plusieurs milliers de combattants qui affrontent pour la première fois depuis 4 ans les soldats du régime syrien de Bachar el-Assad. Drones suicides, pick-up d'hommes armés. L'attaque est fulgurante, de nombreux villages sont tombés. Une route stratégique est bloquée, la route M5 qui relie Alep à la capitale syrienne Damas. Leur objectif ? Faire tomber Bachar el-Assad et instaurer un califat. Certains de ces groupes bénéficient de l'aide tacite de la Turquie. De l'autre côté du front, les soldats du régime perdent du terrain. Ils ont pourtant avec eux l'aviation russe alliée de Bachar el-Assad et les milices pro-Iran. Un combattant des gardiens de la révolution a d'ailleurs trouvé la mort dans les combats. La situation sur place évolue très rapidement. Impossible de dire si les djihadistes feront ou non leur entrée dans Alep dans les prochaines heures.
Théo Renaudon, une nouvelle soirée de tension en Géorgie. La police a tiré des gaz lacrymogènes contre des milliers de manifestants pro-Union européenne. Mobilisés contre la dernière décision du gouvernement qui retarde à 2028 les négociations pour entrer dans l'Union. Cela un mois après les législatives dénoncées par l'opposition, remportées officiellement par le parti pro-russe Rêve géorgien. En Russie, l'inquiétude autour du cours du rouble, il a franchi mercredi un seuil symbolique. 1 euro s'échange contre 110 roubles, à titre indicatif, quelques mois avant le début de la guerre en Ukraine. Les chiffres tournaient plutôt autour des 75-85 roubles pour 1 euro. La monnaie russe a réussi à prendre un peu plus de couleur jeudi, hier, mais le sujet préoccupe le pays. Yannis El-Jabri.
Ce jeudi matin, la presse russe, y compris la plus légitimiste, ne cache rien de cette journée comparée sur les réseaux sociaux à un vendredi noir et l'évoque en termes sombres. Le quotidien Rossiyskaya Gazeta titre ainsi « Attaque de panique sur le marché monétaire ». La Niezavissima Gazeta évoque, elle, un taux de change du rouble choquant et souligne que depuis début novembre, le rouble a perdu 11% de sa valeur, soit à ses yeux une aggravation spectaculaire. D'Astana en fin de journée, Vladimir Poutine s'est lui montré confiant dans les capacités de la banque centrale et de sa patronne à stabiliser la monnaie nationale.
Les fluctuations du taux de change du rouble ne sont pas uniquement dues aux conséquences de l'inflation. Elles sont dues aux paiements, au budget, au prix du pétrole et à de nombreux facteurs saisonniers. Par conséquent, la situation est globalement sous contrôle et il n'y a absolument aucune raison de paniquer.
Le rouble s'affaiblit depuis cet automne, mais il a surtout décroché après l'allocution de Vladimir Poutine jeudi dernier, discours où il revendiquait l'usage d'un missile balistique de moyenne portée en Ukraine. Cet après-midi, le chef de l'État russe a menacé de l'utiliser sur les centres de décision à Kiev, les blogueurs Z, les propagandistes à la télévision ou bien le ministère de la Défense au printemps 2022 ont déjà formulé ces propos, mais dans la bouche du chef de l'État russe, c'est une première. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
En France, Michel Barnier va-t-il échapper à la censure ? Pour convaincre les différentes oppositions, le Premier ministre multiplie les réajustements concernant le budget 2025. Il a notamment annoncé hier que finalement, il n'augmentera pas autant que prévu les taxes sur l'électricité. C'était une mesure réclamée de toutes parts. Charlotte Urien-Tomaca.
La taxe électricité, trop impopulaire pour être maintenue, même dans le camp gouvernemental, on le reconnaît, avec tout de même quelques inquiétudes. Charles Redouel, député EPR.
Aucun groupe politique, si ce n'est nous, ne propose des mesures de compensation. C'est pas sérieux. On va faire des propositions pour compenser à l'euro près cette baisse de recettes.
Pour Adrien Clouet, député LFI, la mesure va dans le bon sens, mais c'est la France insoumise qui l'avait réclamée.
La taxe est tombée, c'est une bonne chose. Monsieur Barnier a décidé de faire semblant que c'était lié au Rassemblement national parce qu'il choisit ses interlocuteurs et apparemment il est plus à l'aise à discuter avec Madame Le Pen sur à peu près tous les sujets qu'avec des gens qui connaissent leur dossier. C'est au RN de savoir à quel prix il se vend. Ce qui est clair pour les électeurs électrices, c'est que aux côtés de nouveaux populaires, nous, on n'est pas à vendre, quel que soit le tarif.
Jean-Philippe Tanguy, député RN, estime que c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant.
Le diable est dans les détails. Et aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi est gagée cette promesse de M. Barnier. Et donc, nous exigeons de savoir ce qu'il en est. J'ai vu quelques réponses techniques de Matignon. C'est effectivement extrêmement vague. Et on le sait, quand il y a un flou, il y a un loup. Et là, c'est un gros loup à 3 milliards d'euros.
Le RN vient de remporter une victoire, a réagi dans un communiqué Jordan Bardella, ajoutant, je cite, que d'autres lignes rouges demeurent. Pas sûr donc que cette seule main tendue suffise à convaincre le RN de ne pas voter la censure.
Michel Barnier a donc aussi proposé une baisse sensible de l'aide médicale d'État destinée aux étrangers sans papier. Pas encore suffisant, répond Marine Le Pen. Elle donne un ultimatum au Premier ministre. Il a jusqu'à lundi pour répondre à d'autres lignes rouges du parti d'extrême droite. Face au risque de créer des adolescents accros aux réseaux sociaux, l'Australie adopte une législation stricte sur le sujet, l'une des plus sévères de la planète. Selon la nouvelle loi qui vient d'être adoptée, les jeunes de moins de 16 ans n'ont tout simplement plus accès à ces plateformes. Pierre-Olivier.
TikTok, Facebook, X ou encore Instagram devront désormais s'assurer que les adolescents australiens de moins de 16 ans ne puissent pas créer de compte. Pour y parvenir, chaque plateforme pourra utiliser les moyens qu'elle souhaite pour contrôler l'âge, pourvu qu'il soit efficace. Car en cas de non-respect de cette obligation, le texte prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars australiens, soit 37 millions d'euros. Les géants du web ont un an pour se conformer à cette nouvelle loi. Une décision du Parlement australien vivement salué par le Premier ministre de centre-gauche pour qui les réseaux sociaux sont une source d'anxiété qui favorise la pression sociale et constitue un outil pour les prédateurs en ligne. Le chef du gouvernement qui dit préférer que les jeunes lâchent leur téléphone et aillent plutôt à la piscine. Un point de vue pas franchement partagé par les géants d'Internet. X, qui appartient au milliardaire Elon Musk, a fait valoir que cette loi pourrait porter atteinte aux droits des enfants. Les plateformes comme WhatsApp ou YouTube, dont les jeunes peuvent avoir besoin pour leurs devoirs, ne sont, elles, pas concernées.
C'est maintenant la fin de ce journal. Il est 3h10 en temps universel quasiment. Merci beaucoup d'écouter RFI. Dans quelques instants, rendez-vous avec Grand Reportage.